On va commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Te remercions, Seigneur, pour être notre ami, pour vouloir t'approcher de nos vies là où elles sont, pour vouloir nous amener plus loin dans ton amitié. Merci, Seigneur, parce que tu as une patience infinie et en même temps, tu ne veux pas nous laisser là où nous sommes, mais tu veux nous amener plus loin à te comprendre, à te connaître, à te reconnaître aussi dans la vie quotidienne, à t'aimer dans nos frères. Donne-nous, Seigneur, que ce parcours que nous continuons cet après-midi, on va suivre jusqu'au dimanche, aux sources de ton cœur immaculé, puisse nous aider à vraiment devenir pas seulement tes amis, mais des amis de l'époux, comme Jean-Baptiste, qui enseigne d'autres à entrer dans ton école. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, comme vous savez, j'ai un accent un petit peu de travers, et je vais essayer de vocaliser le mieux possible. Mais si quelqu'un sent qu'il se perd un peu, levez la main, parce que moi, je ne me rends pas compte quand j'accélère, non? Donc, du coup, on va essayer d'être... Après, le temps, vous savez jusqu'à quelle heure c'est? 18 heures? Aïe, 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 aïe. Donc, à 18 heures, c'est la prochaine rencontre, mais évidemment, non. Voilà, c'est trois quarts d'heure, 50 minutes, à peu près jusqu'à 17h10, quelque chose comme ça. OK? On y va. Voilà. Alors, et Monseigneur, quand il m'a invité à prêcher avec lui cette fois-ci, il m'a dit simplement, je vais traiter de l'amitié avec Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Et après, il m'a dit, débrouille-toi, non? C'est vrai, hein? Et alors je me suis dit, comme il parlera de l'évangile de Saint Jean, pour ne pas répéter les mêmes choses, je vais passer à la première lettre de Saint Jean, que c'est aussi une lettre qu'il a écrite les disciples bien-aimés, non? Et je vais essayer de dégager des éléments de l'amitié avec Jésus qui se trouve dans cette lettre. Comme ça, je suis sûr de ne pas m'éloigner beaucoup du thème, non? Et en même temps, de ne pas reprendre des choses qu'il va dire, ok? Alors, ça pour vous dire qu'on va méditer ou travailler un petit peu de la lettre de Saint Jean. C'est une lettre très petite, à 5 chapitres, et sont quelques pages, 5 ou 6 pages, il y a toute la lettre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'effet d'ici à dimanche après-midi, si vous avez l'occasion de la lire, je vois que vous savez pas tous la Bible ici, mais dans la chambre, oui, non? OK. Non? Sinon, vous pouvez en piquer dans un coin ou l'autre. La première lettre de Saint Jean serait très intéressante de la lire, parce que, je répète, elle est très courte. Et quand on la lit, est différent que quand on entend des enseignements sur la lettre, voyez? Monseigneur Cattenos, il insiste beaucoup sur lire la parole, no? Et quand, parfois quand il pose les questions comme ça, on est tous un petit peu sans trop savoir si répondre ou non. Moi aussi, parce que parfois, no? quand il veut réveiller les prêtres là dans un coin, il dit, et vous, qu'est-ce que vous savez ça? Voilà. J'ai dit un peu d'humour pour se réveiller, parce qu'encore il faut faire la digestion. Alors, non, mais c'est très important. C'est s'habituer à la parole de Dieu nous aide beaucoup. Et plus on s'habitue, plus le Seigneur nourrit notre vie des choses qu'un jour ou l'autre, ça nous parle d'un coin ou dans l'autre de la parole. Lorsqu'on la lit d'affilée, on apprend beaucoup de choses qui nourrissent notre relation avec le Seigneur. Alors, je vais dire quelques mots sur cette lettre et je vais vous expliquer comment on va la décortiquer pour la voir entre ce soir, demain soir et dimanche matin. Donc, on l'a divisée en trois parties. Alors, cette lettre, et je la trouve très intéressante parce que, en fait, Saint Jean, ou les disciples bien-aimés, ou on ne sait pas s'ils sont la même chose ou non, mais en tout cas, non, on l'a compris ce matin, et Saint Jean, il ne fait pas que raconter dans son évangile ce que Jésus dit de lui-même, ce que Jésus vit en relation avec ses disciples, sinon il y a aussi le désir d'accompagner les chrétiens pour que dans leur vie se passe le même dynamisme que dans les disciples. Autrement dit, par exemple, on voit que Saint-Pierre, il était ami de Jésus, okay? Et qu'il a donné la vie pour Jésus, on le voit à la fin. Non? Mais dès qu'il l'a connu jusqu'à qu'il a donné la vie, il a différents chemins. Et parfois, on sort d'une méditation avec le désir de donner la vie, mais après, il y a quelqu'un qui nous met les doigts dans l'œil, non? Et au lieu de donner la vie, on lui donne une gifle, non? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les réactions ne sont pas automatiques. J'ai compris ce qu'on m'a dit, je l'ai fait. Va voir. Hein? J'ai compris qu'il faut aimer jusqu'au bout. Ça y est, c'est clair, maintenant j'y vais. Non? Le bout est très court, quoi. Je trouve le bout avant de sortir. Non? Voilà. C'est important, ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait Saint Jean? Il fait un cheminement progressif. Les gens qui étudient Saint Jean disent circulaire, et vous verrez pourquoi, parce qu'on va diviser en trois étapes, et on verra que dans les trois étapes, on reprend les mêmes points, mais approfondis, un peu comme une spirale, non? On commence par voir cinq points essentiels qu'on va voir aujourd'hui entre le premier chapitre et le deuxième, et après, on va voir que dans les chapitres 3e et un petit peu du chapitre 4 jusqu'au verset 10, il reprend les mêmes éléments approfondis. Et entre le chapitre 4, verset 11, jusqu'au chapitre 5, verset 21, que c'est le dernier, la fin, il reprend les mêmes éléments approfondis. Cette école, quand on la comprend, est très riche. Parce qu'on voit quels sont les étapes par lesquelles l'apôtre veut introduire la personne qui est son disciple. En fait, il les appelle aussi aux disciples bien-aimés. Lui, il est bien-aimé, et il prépare le registre, et il appelle les chrétiens auxquels il renvoie la lettre, les bien-aimés. Donc, ça va dans la même... Donc, il veut que dans les bien-aimés, ils apprennent à réaliser les chemins par lesquels lui-même a passé. C'est pour ça que c'est très intéressant. Si on le lit dans cette perspective, vous verrez qu'il y a cinq ou six points qui se trouvent dans les deux premiers chapitres et qui sont repris progressivement avec un approfondissement qu'on essaiera de voir pour que ça nous illumine. Voilà, ça c'est le but que je me suis proposé, essayer de dégager en trois étapes celles qui sont elles-mêmes dans la lettre, pour que ça nous aide à vivre, voilà, qu'on n'ait pas que la bonne volonté, mais qu'on sache comment le Seigneur même agit dans une vie pour que ces fruits propres de l'Évangile se réalisent en nous. Voyez? Parce que c'est vrai que dans ce matin, Monseigneur, pour résumer sa première conférence, au début, il disait... En Jean 15, il nous a parlé de Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne connaît pas le pourquoi de son maître, je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai compris de mon père, je vous l'ai fait connaître, mes amis. Mais quelques versets plus tôt, le verset 12, Monseigneur n'a pas dit à ce moment-là, il a dit un peu plus tard, non? Il dit que c'est là Jésus le dit à ses disciples pour qu'ils aient en eux-mêmes la joie complète. Ce matin, Monseigneur nous a parlé de la joie complète avec qui? Avec un des amis de Jésus. Quel était l'ami de Jésus? Vous le réveillez. J'ai appris la technique, vous voyez, non? Jean le Baptiste, non? L'ami de l'époux pour que sa joie soit complète. OK? La première lettre de Jean, elle commence avec le verset 4, on va dire ce qu'il y a avant, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. La même chose. Autrement dit, que les disciples, ils se proposent d'introduire ceux qui lisent la lettre dans le dynamisme qui nous font vivre cette joie complète dont Jésus parle. À quoi sert-il que quelqu'un me dise qu'il a la joie complète? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait, non? La joie complète, ça pleure. Je ne sais pas comment m'en sortir de ce trou, non? Et alors, parle-moi de la joie complète. Hein? Non, Saint Jean, il veut donner les éléments qui permettent d'avancer vers cela. Et c'est pour ça qu'il est très riche, parce que quand on voit que l'Évangile n'est pas simplement écouter des choses et après les vivre, l'Évangile c'est écouter des choses, les vivre, on parlait aussi à midi, pas simplement vivre un moment spirituel, sinon avant et après, non, pour pouvoir vivre. Mais c'est très important comprendre quels sont les chemins par lesquels il commence à se réaliser dans notre vie les merveilles qui se réalisent en Jésus. Voilà. Ça, c'est un peu le chemin de Saint Jean dans cette première lettre. Parce que, effectivement, je dis en passant que le disciple bien-aimé, il a reçu Marie chez lui. Et la tradition dit qu'il a vécu avec Marie jusqu'à la fin de sa vie. Non? À Éphèse, on ne sait pas où, mais en tout cas, selon l'évangéliste même dit que de cette heure-là, le disciple l'a reçu Taïdia, au plus intime de lui-même. Taïdia, c'est en grec, au plus intime de lui-même. Ça veut dire que le disciple bien-aimé était très habitué à Marie. Et cela n'est pas banal, vous verrez pourquoi. Parce que la confiance et l'amitié avec Marie permet de mieux comprendre le cœur de Jésus. Et dans cette lettre, on voit très, très bien l'école du cœur de Jésus, comment le disciple bien-aimé et Marie, le disciple bien-aimé par Marie, il avait avancé et il avait découvert. Il y a un élément central qu'on peut le voir dans les trois étapes, qui est celui de la Pâque. Alors, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Ça veut vouloir dire que la joie complète n'arrivera jamais sans nous placer devant Jésus qui donne la vie totalement pour nous. Ce n'est pas une technique de sagesse humaine ou de science humaine ou d'apprentissage psychologique. La psychologie te peut donner un petit peu de zen et un petit peu de calme dans les situations les plus difficiles. Mais si tu veux vivre une joie transfigurée, comme dira Saint-Pierre ailleurs, dans les circonstances concrètes de notre histoire, il faut, le mot se confronter, c'est un peu bizarre parce que ça ne dit pas tout, mais il faut se confronter à la croix de Jésus. Vous verrez pourquoi. Non pour se massacrer soi-même, pas du tout, mais pour apprendre à recevoir la grâce qui nous est donnée. Saint Paul le dira d'une façon étonnante dans la lettre aux Éphésiens, il dira, ne rendons pas inutile la grâce qui nous est donnée. Parce que nous sommes plongés déjà dans un océan de miséricorde, mais souvent on passe à côté. Et c'est pour ça que la croix traverse les trois étapes. On va le voir après, mais pour moi c'est très important ça, non? Après, dans l'évangile de Saint Jean, que c'est la lettre, c'est écrite bien sûr par la même personne et dans le même esprit que l'évangile, il y a trois annonces de la passion, ou trois confrontations avec la croix, trois, qui correspondent à chacune des trois étapes de la lettre. C'est très intéressant. Ça, c'est un peu pour les savants, mais vous comprendrez que pour la vie concrète, ça illumine beaucoup. La première annonce de la Passion dans l'Évangile de Saint Jean se trouve dans le chapitre 3, versets 14 et 16, où il parle Jésus de Moïse et du serpent dans le désert. Et il dit, en contemplant la croix, vous découvrirez la merveille de vie qui vous sauve. Jean 3, 14 et 16. En Jean 8, 29, la deuxième annonce de la Passion, Saint Jean dira une autre chose. Il dira que, et quand vous crucifierez le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. C'est beaucoup plus personnalisé. Dans la première, on dit, contemple et tu découvriras la merveille du Seigneur dans ta vie. Dans la deuxième, dit, quand tu découvriras que c'est moi, c'est toi qui as mis les mains sur ma croix, tu vas découvrir la merveille la plus profonde de mon amour pour ta vie. Troisième annonce de la Passion, Jean 12, 32, dans lequel on parle pas seulement de nous-mêmes, mais il parle de tous les hommes. Alors, ne vous inquiétez pas, ça c'est pas le centre de la méditation, mais c'est pour vous dire que quand on étudie la lettre, on étudie l'évangile de Saint Jean, il y a une homogénéité énorme. À chacun des annonces de la Passion dans l'évangile de Saint Jean correspond une des trois étapes de l'école de la première lettre qu'on va voir. Je dis ça simplement parce que vous verrez qu'il y a, ça se tient beaucoup. Ce n'est pas simplement que bon, il m'est venu dans l'esprit comme ça et basta, non? Sinon qu'il y a tout un dynamisme de l'évangile. Les gens qui ont étudié l'évangile et la première lettre découvrent qu'il y a une richesse très grande qui se cache derrière. Et, encore à mode d'introduction, il y a dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, lettre aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, il y a quelques versets qui sont le résumé de la spiritualité eucharistique de Saint Paul. C'est l'eucharistie qu'il y a derrière. Non? Et alors, Saint Paul dit, en contemplant l'Eucharistie, il dit, je vous exhorte, mes frères, par la miséricorde de Dieu, d'offrir vos corps comme une victime ou une offrande sainte, vivante, agréable à Dieu. Tel sera votre culte spirituel. Ne vous accommodez pas à ce monde présent. Au contraire, renouvelez-vous transfigurez-vous par le renouvellement de votre pensée, de telle façon que vous arrivez à savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, virgule, ce qui lui est agréable, virgule, ce qui est parfait. Saint Paul suit les mêmes trois étapes avec la même logique qu'on va voir maintenant. Ce qui est bon, première étape, ce qui lui est agréable, deuxième étape, ce qui est parfait, troisième étape. Voilà. Comme ça, à niveau de comprendre les trois étapes, quelle est la logique antérieure? La deuxième est hyper significative parce que y a très peu de chrétiens qui découvrent que leur vie lui fait plaisir à Dieu. Ce qui est agréable. Être agréable à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent que se convertir, c'est se mettre en règle. Va faire un effort, l'effort de carême. Non? Et après, on fait un pas en carême et des pas en arrière à Pâques. Non? Maintenant, voilà. Non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'entrer dans une espèce d'auto-exigence plus grande ou de volontarisme plus grand, il s'agit spécialement d'apprendre à reconnaître qui sommes-nous pour Dieu. Nous sommes la joie de notre Dieu. Il y a très peu de chrétiens qui croient qu'ils sont la joie de leur Dieu. Par exemple, dans un après-midi fatigant, no? Après la sieste, no? Avec la digestion, supporter un monsieur qui parle avec une langue de travers, no? Cela est agréable à Dieu. Ah non, non, c'est... Oui, o sea, qu'est-ce que c'est que très agréable à Dieu? Il y a plein d'événements de notre vie qui lui font plaisir, et nous, on a l'impression que Dieu, bon, voilà, il est là en train de mettre des points, si ça va, et sinon, voilà, il m'enlève tous les points que j'avais, non? Non, non, c'est pas du tout ça. Il y a un amour qui est amoureux de ma vie en permanence. Cette deuxième étape, qui est la deuxième étape qu'on va voir dans l'évangile de la première lettre de Saint Jean demain matin, et demain après-midi, est fondamentale. Parce que c'est en passant par cette deuxième étape qu'on découvre ce qu'il nous dit de la troisième. La troisième, il y a des phrases tellement belles. L'amour bannit la crainte. L'amour bannit, l'amour parfait. Ah voilà, merci. L'amour parfait bannit la crainte. Autrement dit, peut-on vivre en dépassant les peurs qui paralysent nos cœurs? Peut-on vivre la vie quotidienne avec un cœur qui soutient le nôtre de telle façon qu'on n'est pas menacé par les problèmes? Quand ça commence à se frôler, la joie complète n'est pas loin. Peut-on y arriver? Voilà. Alors, le but de Saint Jean, c'est, si je leur dis « vivez la joie complète », après ils disent ben, « voilà, ciao, hasta la vista », non? Mais si je leur explique comment on peut arriver, alors là, on a la chance de pouvoir découvrir jusqu'où l'Évangile peut s'incarner dans une vie. No? Voilà. Donc, Saint Paul est un bon témoin aussi pour comprendre ce cheminement. Voilà. Alors, après cette introduction, on va essayer de voir dans les deux premiers chapitres, dans la première étape. Voilà, ça c'est un peu le but de ce que nous essayons de faire. No? Parce qu'effectivement, il y a, dans les temps de l'Avent, on lisait toujours des textes du prophète Isaïe qui pour moi sont très parlants, qui sont très provocants d'ailleurs, no? Mais que moi c'est la porte d'entrée dans cette première étape. Peut-il jaillir l'eau du désert? On dit que le prophète Isaïe prophétise pour préparer Noël. No? Les eaux jailliront dans le désert, il y aura des jardins dans les terres arides. Vous vous souvenez de ça, non? Peut-il jaillir l'eau dans le désert? Peut-il jaillir des sources d'eau vive de mon cœur meurtri? Peut-il y avoir des merveilles qui se cachent au plus profond de nos cœurs parfois dans la peur? Y a-t-il des merveilles d'eau pure qui nous habitent et qui souvent ne profitent pas parce qu'on a l'impression dans la logique quotidienne que rien de bon se passe? Ou quand il se passe une chose bonne, il se passe trois mauvaises, non? Est-il possible que... Ces questions sont celles que dans le prophète Isaïe veulent préparer les temps de l'incarnation. Mais pour répondre à ces questions, il y a un psaume que j'aime beaucoup, que toujours me fait sursauter, c'est de l'Aude, et quand je le lis, souvent, un peu endormi, je lis ça, et ça me réveille, non? Mon amertume amère me conduit à la paix. Et comme on les chante, mon amertume amère me conduit à la paix. Oh là là. Mon amertume amère me conduit à la paix. Je ne sais même pas ce qu'on chante, non? Ça, vous savez, mon amertume amère me conduit à la paix. Est-il possible, ça? Parce qu'on chante des contradictions incroyables, non? C'est un problème incroyable, boum, ça me conduit à la paix. Ça sera dans le prophète Isaïe, qui avait pris un petit peu de je ne sais pas, non? De ces choses qu'on prend, quoi. Voilà. Alors, et pourquoi cette logique est importante? La première lettre de Jean commence, no? Avec un texte que vous connaissez par cœur, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ça on le dit très souvent, hein, ce que nous avons, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, c'est que nos mains ont touché du Verbe de vie qui était tourné vers le Père et qui s'est manifesté, nous vous l'annonçons. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion et avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Dans la note, dit « pour que notre joie soit complète » ou d'autres manuscrits disent « pour que votre joie soit complète ». Et après, immédiatement, il commence à parler du péché. La joie complète, il est péché. Écoute, il vaudrait mieux parler d'autre chose, non ? Voilà, non ? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Voilà, ça commence bien, non ? Nous agissons pas dans la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons, nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. Ah, pourquoi ? Pour parler de la joie complète, Saint Jean commence à parler du péché. Je vous donne trois clés. J'ai l'habitude de les donner parce que pour moi, ça m'a fait un bien énorme. Quand tu essaies de cacher sous un tapis ce qui ne va pas en toi, le même voile qui t'empêche de voir ce qui ne va pas en toi et le même voile qui t'empêche de découvrir les sources d'eau vive qui sont dans ton intérieur. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Le même voile que j'utilise pour cacher ce qui ne va pas en moi, c'est le même voile qui m'empêche de découvrir les merveilles d'amour dans lesquelles le Seigneur veut m'introduire. Ah, les chrétiens, nous sommes toujours en train de parler du péché, non? Nous sommes en train de dire que si on ne cache pas, parce que le péché, ce n'est pas un apanage chrétien, hein? Mais nous en faisons aussi tous, non? Ok? Et au lieu de dire, voilà, non, c'est normal, c'est humain, non? C'est comme ça, non? Celui de ça, tu commences à regarder en face en contemplant Jésus, Évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 16, dont je vous parlais, il commence à se passer les premières merveilles de l'Évangile, qui sont toutes là, comme dit la première lettre de Jean, dans les premiers versets. Si vous voulez noter un peu pour travailler plus tard, non ? Du verset 5 jusqu'au verset 10, hein, c'est tout ça ce que je suis en train de dire et qui apparaît. Alors, qu'y a-t-il derrière ? Il y a une chose merveilleuse, c'est, je l'ai appris à Lourdes. Certains, vous m'avez entendu déjà parler de ça, mais c'est très significatif. À Lourdes, vous savez tous l'histoire de Lourdes, non? Mieux que moi, parce que je suis espagnol, non? Vous êtes dans les racines même, non? Et certains vous parlez occitan, comme la Vierge, le patois de Bernadette, non? Et alors, c'est très intéressant, parce qu'à Lourdes, bien sûr, la dame lui dit à Bernadette, non? Quelle est l'Immaculée Conception, ou quelque chose comme ça, non? Il me l'a dit en patois, non? Au moins, dans la grotte, il est écrit en patois, ok? C'est très intéressant, parce qu'il dit qu'elle est l'Immaculée Conception. Mais elle ne fait pas que ça. Marie, comme on le montre dans l'Évangile de Saint Jean, dans la première lettre, elle ne fait pas que dire que moi je suis l'Immaculée Conception et vous, débrouillez-vous. Non, 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 non. Elle lui montre à Bernadette les chemins par lesquels Bernadette même pouvait jouir de la même réalité qu'elle. Ah oh non, non, mon père, comment vous avez pris un peu de whisky, non ? Non, non, c'est vrai. Hein? Marie montre à Bernadette les chemins par lesquels ces merveilles dont elle jouit peuvent commencer à jouir en elle. Comment ? L'exemple tout simple. Vous savez tous, quand on lit le récit de Lourdes, que la dame lui dit à Bernadette, prends de l'eau. Oui, non? Et Bernadette, immédiatement, s'en va à la rivière prendre de l'eau. Et la dame lui dit, non, ici. Et qu'est-ce qu'il y avait ici? La boue. De la boue. Qu'est-ce que c'est les péchés que nous aimons pas beaucoup de voir en nous-mêmes? La boue. La boue. Oh là, non? Si on pouvait cacher tout ça, on regarde les films de la vie, si on pouvait couper ça, non? Après couper ça, non? Et après on voit que les films, il n'y a pas moyen de les tenir, non? Hein? C'est vrai, parce qu'ils disent que quand on ira au ciel, on va nous passer les films de la vie, le Seigneur là, non, 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 passe vite. Ok, non, vous voudrez couvrir dans le tapis, non? Et c'est pas comme ça, hein? La dame lui dit, ici. Et Bernadette commence à gratter, parce que la dame lui a dit ça, la boue c'est imbuvable, hein? Et après il y avait de l'eau sale, encore c'est imbuvable. Après il y avait de l'eau moins sale, encore ça ne se vivait pas. Mais à un moment donné, il y avait l'eau de Lourdes, celle qui encore aujourd'hui on vend en petite bouteille partout, les supermarchés, etc. Non? L'eau de Lourdes, que tu te baignes là et après... Vous voyez ce que je veux dire? La dame est en train de montrer à travers l'exemple que lui fait faire à Bernadette qu'au-dessous de la boue, il y a le pire. Ça, c'est pas mien, hein? C'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 14, 13-14, parce que Jésus, quand il rencontre la femme de Samarie, la femme de Samarie, elle n'était pas spécialement en règle, non? Elle avait eu 4 remariages, non? 4, parce qu'elle avait eu 5 maris, 4 remariages. Et en plus, elle était avec un copain qui n'était pas le dernier marié. Oui, oui. Va voir, non? C'est un CV parfait, non? Il y avait de la boue, quoi, dans l'horizon. Et Jésus lui dit, de ton intérieur jailliront des sources d'eau vive. Il lui dit ça, parce qu'il s'est trompé, non? Jésus dit, non, cette pauvre femme, voilà, je lui ai dit de belles choses sur elle, mais je ne crois pas à ça. Non, non. Jésus savait que c'est de son intérieur jaillissent des sources d'eau vive, qui vont jusqu'à la vie éternelle. Mais après coup, commence à lui dire que va appeler ton mari, etc. Mais lui-même, qui savait déjà tout ça, il est en train de voir en la femme de Samarie la même chose que Marie lui faisait voir à Bernadette et la même chose qui peut se passer dans notre vie. Parce que dessous de la boue, il y a le pire. Qu'est-ce que c'est que gratter? Première lettre de Saint Jean, le premier verset. Pour nous amener à la joie complète, il nous dit qu'il faut, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est assez fidèle et juste pour remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur. » Mais vous voyez, il ne s'agit pas de péché, le péché, le péché, non, non. C'est se libérer des péchés. Parce que ce qui nous rend pessimistes, c'est ça. Le pessimisme de notre génération dans lequel on voit que ça va de pire en pire, la politique de pire en pire, la société ne parle pas, non? Et alors, tu commences à voir, mais ça, on entrevoit quelque chose de mieux, non? On entrevoit chaque fois pire. Ce que j'entends tout le temps, hein? Comment ça va, oh lolo, non? Non, c'est vrai, non? Non, mais pour moi, c'est très important, parce que ce pessimisme n'est que les raisonnements des personnes qui ne savent pas qu'au-dessous de la boue, la mienne et celle de l'autre, il y a le pire. Elle n'est pas loin, elle est là. Elle est là. Mais si je couvre dans tapis la boue, je vous assure que le pire va jaillir pas du tout. négativité totale, tout va mal. Et plus tu vas, plus tu vas mal, plus tu renvoies des cellules négatives dans tout l'horizon. Parce qu'on ne se contamine pas l'espérance. Hein? Ben voilà, hein? Non, je vous invite à raisonner ça, parce que l'époque que nous vivons n'est pas pire que les autres. N'est pas mieux non plus, il ne faut pas rêver, n'est pas pire. Autrement dit, le pire existe. Dans toute personne, et même la personne la plus éloignée de, qu'on puisse... Le pire existe. La capacité de faire du chemin, de gratter la boue, de faire confiance et permettre que le pire commence à jaillir, là c'est notre chose. Mais là, c'est notre travail à nous, et le travail de l'évangéliste. Il dit qu'est-ce que c'est important de se placer devant le Seigneur en sachant que mieux on se place devant lui, plus le pire va jaillir et plus notre vie, la même, celle que c'est la mienne, parce que le Seigneur ne me demande pas être autre personne que moi, hein. C'est que je suis peut-être une source d'eau vive qui sert pour moi et sert pour les autres. Parce que chaque fois que tu trouves espérance dans le désert, il commence pas seulement en toi-même à vivre totalement différent, mais à donner des raisons à l'autre, parce que si celui-là il peut, moi aussi. Non? Ok? Donc là, c'est le premier point. Et ce premier point est très important, parce que effectivement, le cœur de ce que le Seigneur nous invite à vivre dans l'amitié avec lui commence par ne pas avoir peur de ce qui ne va pas en nous, pas avoir peur de ce qui ne va pas en nous, mais nous tourner vers lui, parce que en se tournant vers lui, on risque de commencer à découvrir que son amour est beaucoup plus puissant de ce qu'au départ on pouvait imaginer. Mais ne cachons pas ce qui ne va pas. Vous savez pourquoi nous savons que Saint-Pierre a renié Jésus? Nous le savons, nous savons que Saint-Pierre a renié Jésus parce qu'il l'a dit. Imagine le premier pape. C'est pas sympa, le premier pape. Hein? On l'a nommé pape un peu avant, non? Et après, la première chose, que, occasion, parce que dans la scène, c'est-à-dire, j'étais dans l'Eucharistie, la dernière scène, non? Et quand Jésus dit qu'il risquait d'être tué, Pierre, moi, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Hein? Il dit ça. Hein? Ça a duré un quart d'heure, hein? Ou trois quarts d'heure, je ne sais pas combien de temps ils ont passé, mais pas forcément beaucoup. Non? Il devait confirmer tous ses frères dans la vérité. Non? Et la servante du grand prêtre, tu les connais, moi? De qui parles-tu? Ben voilà, c'est incroyable. Hein? Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il l'a dit. Quand tu reconnais pauvrement, tu te places devant Jésus comme le lieu privilégié où il nous connaît. Mais il tape pas, il couvre pas dans le tapis ce qui ne va pas, sinon il dit, je vais guérir ce qui ne va pas. Et en les guérissant, tu vas découvrir que les sources d'eau vive de mon amour rejoignent ton cœur, traversent ta vie, et renouvellent ta vie et celle des autres. Comme dira la prophétie du prophète Ézéchiel, c'est l'Esprit Saint. Le chapitre 47, non? Dans lequel il dit que du fleuve, du côté droit du temple, jaillit un tout petit fleuve, un petit fleuve d'eau pure qui arrive à la mer de l'Araba, autrement dit, la mer de la corruption, en arabe, en hébreu, et il a assaini tout entier. Un petit fleuve qui jaillit d'un côté d'un temple, arrive à la mer de l'Araba, et là, assainit tout entier. Et voilà, ça fait pleurer ou rire, non? Ça dépend des jours. Hein? Mais en réalité, c'est qu'effectivement, ce petit fleuve qui jaillit du côté ouvert du Christ, lorsque je me place en vérité devant lui, a la puissance de transformer mon intérieur. Réellement. C'est pour ça que, voilà, ce chemin de la confession aide beaucoup. Et après, immédiatement, la lettre continue dans les chapitres 2, versets 3 à 8, dans lesquels, en reprenant ce mystère de l'eau pure qui jaillit au-dessus de la boue, Saint Jean n'utilise pas ce langage, mais les idées sont celles que je viens de vous dire, immédiatement commence à parler celui qui connaît lui, doit vivre comme lui-même il a vécu. Il va faire un dialogue très intéressant sur ce que Saint Jean-Paul II dira, l'homme s'accomplit dans ses actes. Je m'explique. Tu n'auras pas le dynamisme de l'eau pure qui continue à t'habiter si tu ne t'orientes pas dans ta vie selon ce que tu es en train de... Mais tu commences par découvrir que les sources d'eau vive t'habitent. Parce que sans le Seigneur, tu ne vas rien faire. Mais une fois tu as découvert un tout petit peu de cette grâce, au moins oriente ta vie vers ce que le Seigneur a vécu. Qu'est-ce que c'est que ça? Apprendre à penser comme Jésus, 1 Corinthiens 2, 16. Je dis par cœur, mais tout ça, ce n'est pas un cours de mathématiques, sinon pour vous dire que je suis en train d'inventer, je suis pas en train d'inventer des choses, sinon que sont toutes dans l'écriture. Monseigneur Catenos toujours me dit, comme il n'est pas là, je peux répéter tranquillement, non? Il dit qu'il faut connaître l'écriture comme les rues de notre quartier. Les rues. Voilà, savoir, ça, au moins, même si je ne me rappelle pas de tout, au moins, pourquoi? Parce que plus je m'habitue à l'écriture, plus ces merveilles dont on parle commencent à être vraies. Sinon, oh, j'avais oublié. Ben, c'est normal. Ça, il faut un petit peu de ça. Non? Il y a penser comme Jésus, sentir comme Jésus. Vous savez où se trouve ça? Ah, merci beaucoup. Philippiens 2, 1 à 5, sentir comme Jésus, aimer comme Jésus, ça se trouve où? Je vous ai donné exemple pour que Jean 13, non? Jouir comme Jésus, non, pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, à fil et à mesure que cette merveille de la vie commence à germer en nous, Saint Jean nous invite à apprivoiser comment Jésus vit. Cet apprivoisement est d'une richesse incroyable, mais après Saint Jean passe à un deuxième point. Quel est le deuxième point? On va le voir dans toutes les trois étapes. C'est notre rapport aux frères. 1 Jean 2, 9 à 11. Le rapport aux frères. Parce que, vous voyez, Nous sommes dans la relation avec Jésus, nous aimons Jésus avec le même cœur que nous aimons l'autre. Notre relation à Jésus est en relation, en rapport à la relation que nous avons à nos frères. Qu'on le veuille ou non. L'espiritualisme n'est pas toujours un bon signe pour vivre le dynamisme de l'Évangile. Là, je suis un peu méchant parce que je crois qu'après le Concile Vatican II, on a une espèce de déviation horizontaliste, etc., qui a fait beaucoup de mal à l'Église, je le dis simplement et vraiment. Mais il ne fait pas moins mal une espèce d'espiritualisme qui n'introduit pas l'autre dans la relation au Seigneur. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jean-Paul II, dans la lettre qu'il vous a écrite. Vous lisez les lettres que vous envoie le pape? Ah, le pape vous envoie des lettres, vous ne les lisez pas. Écoute, il vous envoie une lettre Macron, vous la lisez, non? Et le pape vous envoie une lettre, vous... Aïe, 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 aïe. Alors, c'est une lettre qu'il vous avait écrite en 1981. Vous viviez déjà tous, non? Là, c'est méchant. Non, mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans cette lettre, le pape Jean-Paul II disait miséricordia. Hein? Et il disait, il y a le plus grand mal que vit le christianisme dans notre siècle, c'est la séparation entre les rapports à Dieu et les rapports aux frères. Très fort. On verra dans la troisième étape jusqu'où cela est merveilleux. Parce que ce n'est pas un problème. Hein? C'est, non, il faut aimer les frères, non? Vous vous souvenez, non, quand, vous passez à l'écran avec tous les problèmes des frères dans le monde, tu éteins l'écran. Non, parce que, ce que vous avez fait à chacun, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais Jésus ne parle pas des frères pour nous en vouloir, mais parce que pour guérir notre cœur. C'est la guérison du cœur et pas le volontarisme obligatoire qu'il faut faire quelque chose pour l'autre. Je n'ai pas envie d'aller trop loin, alors j'arrête. Non? Ça, c'est pas un fardeau à charger sur nos épaules. C'est que mon rapport à l'autre est en lui privilégié d'élargir mon cœur pour plus et mieux recevoir Jésus. C'est avec le même cœur que je me rapporte à Jésus et à l'autre, le même cœur. Parfois, on ignore ça. Je répète, ce n'est pas une leçon d'obligation, de blablabla. C'est une école d'apprendre à élargir mon cœur, de passer mes peurs et découvrir les merveilles que l'Évangile veut me faire vivre. Je ne dis pas que d'un coup, tu commences à faire un tas de choses pour les autres. Ce n'est pas exactement ça, non? Ce que Saint Jean dit dans ces versets 9 et 11 est très significatif parce que 9 et 11 du chapitre 2, non? Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il n'y a en lui aucune occasion de chute. Occasion de chute. Ah, qu'y a-t-il derrière cette phrase? Que effectivement, dans le dynamisme de connaître Jésus, toujours en commençant de l'eau pure qui jaillit de la boue, si je ne commence pas par ça, tout va être pesant, lourd et insupportable. Mais une fois que j'ai commencé dans ce dynamisme, c'est très important d'apprendre à découvrir que ma relation à l'autre peut guérir mon cœur pour mieux recevoir Jésus. Saint François d'Assise, il racontera toujours que quand il avait une appréhension énorme au lépreux, et le jour qu'il a embrassé le lépreux, il y a tout l'aveuglement qu'il sentait dans son cœur commence à se transformer. Parce qu'effectivement, ça c'est le livre des Proverbes qui le dit, non? Ça, tourne ta vie vers ton frère et ta lumière sera midi, ou tes ténèbres deviendront midi. Autrement dit, qu'il y a quelque chose dans le rapport à l'autre qui guérit mon cœur pour mieux accueillir le mystère de la vie de Jésus. Et alors il y a un saint, père de l'Église, qui s'appelle Diadoco de Fotiche. Ça vous dit quelque chose? A moi non plus jusqu'à que je l'ai lu. Parce que... Mais il disait une chose, quand ton frère te fait une provocation, en gros, non? Tu dois te réjouir. Ah, tu vois? Ce saint n'est pas trop connu. Voilà. Non, ce qu'il disait, oui, parce que il est en train, ça fait jaillir à moi une violence, non? Il dit, il est en train d'éveiller une violence qui était déjà en toi et que tu peux te tourner vers le Seigneur et a commencé à l'enlever. Plus tu commences à enlever ce type de violence, et plus l'amitié avec Jésus va grandir. Je répète, il ne faut pas aimer les frères parce qu'il faut aimer les frères, parce qu'il faut aimer les frères, non. C'est une école de guérison du propre cœur. C'est pour ça que c'est très important de l'apprivoiser dans le dynamisme de l'Évangile. Et c'est pour ça que dans la deuxième étape et la troisième, vous verrez jusqu'où cela est libérateur. Parce qu'on ne dépasse pas les peurs sans dépassant un tout petit peu les peurs de notre intérieur. Mais on peut les dépasser, vraiment. Il y a une école de dépassement des peurs. Non? Après, il y a un troisième point qui est essentiel, que c'est qu'à fur et à mesure qu'on guérit les propres, disons, on dépasse la boue pour découvrir le pire, premier point, et qu'on commence à guérir notre cœur dans la relation à l'autre, troisième point, on commence à percevoir les trésors qui jaillissent vraiment de notre intérieur. Ça, c'est encore la première étape de cette première lettre de Jean. Et pour comprendre ça, je vais toujours à une citation qui se trouve dans l'évangile de Saint Matthieu, pour le voir très clair, c'est très lumineux, que c'est les trois rois mages. Ici, Saint Jean le dit, on ne quitte pas Saint Jean, hein, mais parfois quand on lit Saint Jean avec une autre lumière, on comprend mieux le sens des phrases. Non, et les phrases de Saint Jean se trouvent dans la première Jean, chapitre 2, versets 12 à 17. Mais je vais essayer d'illuminer avec les mages qu'est-ce qu'il y a derrière. Les mages, vous savez tous l'histoire, non? Ils venaient de l'Orient, l'étoile, non? Ils suivaient l'étoile, la lumière qui brille dans le cœur, parce que tous les pères de l'Église ont compris que l'étoile n'est pas la comète, qu'encore il y a des astrologues qui cherchent à savoir s'il y avait une comète qui a passé ce jour-là par les parages. Certains disent que oui, d'autres que non. Moi, quand j'étais pas là, je ne peux pas le dire, non? Mais non, c'est vrai. Mais tous les pères de l'Église disent que l'étoile est le signe de la lumière qui brille dans notre cœur, parce que tout homme qui vient dans ce monde, le Verbe est la lumière qui illumine tout homme qui vient dans ce monde. Et tout le monde a une lumière intérieure du Verbe de Dieu déjà, comme disait Monseigneur ce matin, qui accompagne nos pas, qu'on le veuille ou non. Après, on peut l'aveugler beaucoup, 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 mais même quand on l'aveugle beaucoup, 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 il s'effraie un chemin dans notre intérieur. Et alors, oser suivre la lumière du cœur, ce qu'ils ont fait ces hommes, et avec cette lumière du cœur, ils arrivent à Jérusalem, que c'est le peuple des Écritures, autrement dit, ils arrivent à une retraite avec la Bible, avec la lumière du cœur, c'est nous, hein? Avec la lumière du cœur, nous venons à faire une retraite à Paray-le-Monial, au cœur de Jésus, avec la Bible, hein? Les prochains enseignements, je voudrais que vous l'ayez un peu pas si loin, non? Parce que comme ça, oui, parce qu'il faut le voir dedans. Hein? Et alors, voilà la Bible, le Nouveau Testament, sinon, même un iPhone, sauf si vous envoyez des messages au milieu de ça va pas, non? Mais même un iPhone, vous trouvez votre Bible, hein, facilement. Non? Mais, alors, qu'y a-t-il derrière ça, non? Qu'ils arrivent au peuple des Écritures et il y a des façons très différentes de lire l'Écriture. Tu peux lire l'Écriture comme Hérode prévenu. Et plus on lui explique des choses à Hérode, et plus il commence à lever un mur incroyable, hein? Un orgueil qui commence à le travailler, et après il fait des massacres. Mais c'est une façon de lire, hein? Parce que Hérode a lu la même lecture que les mages. C'est avec la même Bible. On peut tirer des résultats totalement différents. Je peux me prévenir, parce que j'ai la peur, ou je peux commencer à marcher et à faire confiance à ce que la parole me dit. Mais le point le plus beau de ça, et après vous verrez bien que Saint Jean utilise la même idée, même si avec un langage différent, le plus beau c'est que les mages continuent avec l'étoile du cœur. Et quand ils arrivèrent là où se trouvaient la mère et l'enfant, dit le texte, ils se réjouirent en voyant l'étoile. Tous les ans, quand il arrive la messe des mages, je me moque toujours de la même chose, parce que personne ne s'attend. C'est-à-dire qu'ils arrivent, l'étoile amène là où il y a la mère et l'enfant. Non? Normalement, ils sont très contents de voir la mère et l'enfant, et ils s'en fichent de l'étoile, mais non, ils disent qu'ils se réjouirent en voyant l'étoile. Non? Il dit, quand ils arrivèrent là où se trouvaient la mère et l'enfant, ils se réjouirent en voyant l'étoile. Écoute, J'en perdis un peu la tête, quoi. Après venir de l'Orient pour chercher ça, au lieu de se réveiller, il commence à regarder. Non, voilà. Non, mais c'est très intéressant, beaucoup plus intéressant ce qu'on peut imaginer. Parce que devant l'Eucharistie, devant la crèche, on peut voir une maman, un enfant qui pleure. Wow, 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 wow. Et pour voir ce qu'ils ont vu, il fallait que l'étoile qui les a portés se pose. Autrement dit, c'est dans la lumière du cœur qu'il faut contempler. Et qu'est-ce qui se passe quand ils contemplent? Ils ouvrirent leur coffret, l'or, l'encens et la myrrhe, mais tous les pères de l'Église disent, ils ouvrirent leur coffret du cœur et ils commencèrent à jaillir des trésors qui sont des trésors divins, qui étaient déjà là et qui seulement commencent à se manifester dans la rencontre. Des trésors divins, même, il y a beaucoup de pères de l'Église qui vont dire, vous savez que quand on fait le baptême d'un enfant, c'est l'heure, hein, fait le baptême d'un enfant, on dit qu'après l'onction, tu es devenu prêtre, prophète et roi. Il y a beaucoup de pères de l'Église qui vont faire la relation entre l'or, l'encens et la myrrhe et ces trois caractéristiques de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'effectivement, quand on rencontre le Seigneur dans la lumière du cœur, il commence à jaillir des trésors divins qui sont en nous. Et cela, Saint Jean le dit d'une autre façon, mais il le dit, je vous écris, petits enfants, vos péchés sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes, vous avez vaincu les mauvais. Je vous l'écris, enfant, vous connaissez les pères. Tout ça, c'est en passé. Vous connaissez, vous savez, vous avez déjà vécu. Cela commence à vous habiter. Qu'y a-t-il derrière ça? C'est une filière, un fil qui va accompagner les trois étapes. C'est l'assurance intérieure qu'on a, parce qu'à fur et à mesure qu'on rencontre le Seigneur, on vérifie dans notre vie que les merveilles qu'il nous a promis se réalisent. Des trésors que tout seul nous ne pouvons pas vivre. Mère Teresa n'est pas quelqu'un qui était un peu plus capable que les autres. Saint François d'Assise n'était pas un mec qui était déjà depuis toujours orienté vers ça. Thérèse de Calcutta, chaque fois qu'on parle des personnes qui sont références, ne sont pas références parce qu'ils étaient un peu plus, mieux que la moyenne, sinon parce que dans cette rencontre, on commençait à jaillir des trésors vés dans leur cœur, réellement, réellement. Et j'ai fini déjà, parce que le quatrième point de la première étape, je vais l'effleurer un petit peu, demain on va le reprendre dans la deuxième étape un petit peu mieux. Et à ce moment-là, on commence à réaliser que c'est le Christ qui vit en nous, Galates 2:20. Et pourquoi, comment Saint Jean aborde ça? Il dit, il ne faut pas se faire des images fausses du Christ. Parce qu'il habite en moi, mais si j'ai une image fausse de lui, je lui empêche de déployer dans ma vie ce trésor dont on parle. Ce trésor ne se développe pas dans mon cœur avec des images fausses de Jésus. Saint Jean appelle ça l'antichrist. Qu'est-ce que c'est l'antichrist? Je suis de plus en plus effrayé, pas de l'antichrist qui va tomber comme ça, sinon des tas d'antichrist, comme dit Saint Jean, qui sont toutes les images fausses de Christ que nous véhiculons les uns les autres, c'est ça l'antichrist. Ils sont des nôtres, mais ils ne les connaissent pas. O sea, ils sont dans la boîte, mais ils ne savent pas de quoi on parle. Ils se fabriquent en Jésus à leur mesure. Il y a les Jésus analgésiques, ça fait mal quelque chose, il y a une pilule de Jésus, non? Il y a le Christ sentimental, no? Un petit peu de flou-flou au cœur. No? Est-ce que Jésus n'aime pas notre cœur? Oui. Est-ce qu'il ne veut pas me le combler? Oui. Mais il ne se réduit pas simplement à une espèce de jeu sentimental pour les jours que je me sens un petit peu seul. Non, c'est vrai. Hein? Et beaucoup plus que ça. En Christ, petit nounou que je prends l'ours, non, maintenant, qu'on appelle ça le... Voilà, non, j'ai fait une caricature, mais cette caricature n'est pas méchante, mais réelle. Ça, qu'est-ce que c'est que l'antichrist? C'est que les images fausses de Jésus empêchent que ce Christ qui vit en nous, qui veut nous faire émerger le trésor de vie qu'il a semé, avec un petit nounou comme ça, non, ça ne va pas pouvoir... produire ce qu'il nous... Les béatitudes, c'est très important de les apprivoiser petit à petit, parce qu'elles fonctionnent. Il n'y a aucune des béatitudes qui ne fonctionne pas. Mais pour qu'elles fonctionnent, il faut apprivoiser le Jésus que dans l'Évangile vit les béatitudes. J'arrête parce que je vous ai entretenu pendant 65 minutes. Ce n'est pas 18 heures, hein, comme quelqu'un disait, non? Mais bon, voilà, avec ça, ça suffit. Mais je vous invite vraiment à lire les deux premiers chapitres de la lettre, ce n'est pas trop long, et essayer d'apprivoiser ces 5 points, la boue, l'eau pure jaillit au-dessous de la boue, premier point, dans la relation à l'autre, mon cœur avance dans la connaissance intérieure, justement quand ces deux voies se font, le trésor divin que le Seigneur a semé commence à émerger. Quatrième point, pour qu'ils émergent, il fait que je connaisse bien Jésus et je ne me fabrique pas un Jésus à ma mesure. Ces 4 points, il y a un autre que je ne vais pas dire maintenant pour ne pas vous fatiguer trop, se répète à chaque étape de la lettre. Et c'est vraiment merveilleux découvrir comment ça nous introduit dans... Il vit que la joie complète n'est pas ailleurs. Elle peut arriver ici et maintenant. Amen.